Léon Tolstoï, Marchez pendant que vous avez la lumière. Traduction par Vladimir Bienstock. Récit du temps des premiers chrétiens, 1887. Introduction. Une fois, dans une maison riche, des amis se trouvèrent réunis. Une conversation sérieuse sur la vie s'engagea. On se mit à parler de personnes absentes, et ni parmi celles-ci, ni parmi les personnes présentes, on ne put trouver quelqu'un qui fût content de sa vie. Non seulement personne ne pouvait se dire heureux, mais personne ne pouvait prétendre mener l'existence qui doit être celle d'un chrétien. Tous durent avouer qu'ils ne vivaient qu'en pensant à eux et à leur famille, sans penser au prochain et encore moins à Dieu. Ainsi parlaient entre eux les convives, et tous étaient d'accord pour déclarer qu'ils menaient une vie impie. « Pourquoi donc continuer à mener cette existence ? » s'écria un jeune homme. « Pourquoi continuer à faire ce que nous condamnons ? Ne sommes-nous point libres de changer notre vie ? Nous voilà d'accord pour reconnaître que notre luxe, notre oisiveté, nos richesses, et principalement notre orgueil, font que nous vivons isolés au milieu de nos semblables et nous mènent à notre perte. Afin d'être célèbres et riches, nous devons nous priver de tout ce qui fait la joie de la vie humaine. Nous vivons entassés dans les villes où nous étouffons, nous nous amollissons, nous ruinons notre santé. Et malgré tous nos amusements, nous mourons d'ennui et du regret que notre vie ne soit pas telle qu'elle devrait être. Pourquoi donc vivre ainsi ? Pourquoi perdre ainsi notre vie ? Ce bien que nous tenons de Dieu. Je ne veux plus vivre comme autrefois. J'abandonne les études commencées. Elles ne mèneront à rien d'autre qu'à cette même vie pénible dont nous tous nous nous plaignons maintenant. Je renoncerai à ma propriété. J'irai vivre à la campagne avec les pauvres. Je travaillerai avec eux. J'apprendrai les travaux manuels. Et si les pauvres ont besoin de mes connaissances, je les leur communiquerai. Et cela non à l'aide d'institutions et de livres, mais en vivant avec eux, en frères. Oui, je l'ai résolu ainsi, dit-il, en jetant un regard interrogateur sur son père qui était présent. « Ton désir est excellent, » dit le père, « mais léger et irréfléchi. Tout te paraît si facile parce que tu ne connais pas la vie. Il y a tant de choses qui nous paraissent bonnes, mais leur réalisation est souvent fort difficile et fort compliquée. Il est difficile de marcher droit sur une voie battue. Mais il est encore bien plus difficile de tracer une voie nouvelle. Seuls les hommes mûrs et qui possèdent tout ce qui est accessible à l'homme peuvent les tracer. Les nouvelles voies de la vie te paraissent faciles parce que tu ne comprends pas encore la vie. Tout cela n'est que la légèreté et l'orgueil de la jeunesse. Nous autres, hommes, âgés, notre rôle est précisément de modérer vos élans, de vous guider par notre expérience. Et vous autres, les jeunes, eh bien vous devez nous obéir afin de profiter de notre expérience. Ta vie active est encore dans l'avenir. Maintenant tu grandis et te développes. Façonne-toi, instruis-toi tout à fait, fais-toi une situation, aie des convictions fermes, personnelles, et alors commence une vie nouvelle, si tu te sens pour cela des forces. Pour le moment, obéis à ceux qui te guident pour ton propre bien, et ne te mêle pas de tracer de nouvelles voies de la vie. Le jeune homme se tut. Les aînés approuvèrent les paroles du père. Vous avez raison, dit au père du jeune homme un monsieur marié d'âge moyen. Il est vrai que le jeune homme, qui n'a pas l'expérience de la vie, peut se tromper en cherchant de nouvelles voies. Et sa décision ne peut être ferme. Mais nous tous, nous reconnaissons que notre vie est contraire à notre conscience et qu'elle ne nous donne pas le bonheur. Aussi ne peut-on méconnaître la légitimité du désir d'en changer. Un jeune homme peut prendre son rêve pour les déductions de la raison. Mais moi, je ne suis pas un jeune homme et je vous parlerai de moi. En écoutant la conversation de ce soir, la même pensée m'est venue. Il est évident, pour moi, que ma vie ne peut me donner la paix de l'âme et le bien. L'expérience et la raison me le montrent. Alors qu'attends-je ? Du matin au soir, on travaille pour la famille. Et il résulte que ni moi, ni ma famille ne vivons selon Dieu et que nous nous embourbons de plus en plus dans le péché. On travaille pour la famille et il n'en résulte pour elle rien de bon, car ce qu'on fait pour elle n'est pas bien. C'est pourquoi je me demande souvent s'il ne vaudrait pas mieux pour moi changer de vie et faire précisément ce que disait le jeune homme, cesser de me soucier de ma femme et de mes enfants pour ne plus qu'à songer qu'à mon âme. Ce n'est pas en vain qu'on trouve chez Paul celui qui est marié se soucie de sa famille. Celui qui n'est pas marié ne pense qu'à Dieu. À peine l'homme marié avait-il terminé que toutes les femmes présentes, y compris la sienne, le prirent à partie. « Il fallait songer à cela auparavant, » remarqua une femme âgée. « Une fois qu'on s'est mis sous le joug, il faut le traîner. Autrement, chacun dirait qu'il veut faire son salut, quand il lui paraîtrait difficile de nourrir sa famille. C'est un mensonge et une lâcheté. Non, l'homme doit vivre selon Dieu en famille. » C'est facile de faire son salut quand on est seul. Et de plus, agir ainsi, c'est agir contrairement à la doctrine du Christ. Dieu a ordonné d'aimer son prochain, tandis que vous, sous prétexte d'être agréable à Dieu, vous voulez affliger les autres? Non, un homme marié a des devoirs très définis, et il ne doit pas les dédaigner. Quand la famille est élevée, c'est une autre affaire. Alors vivez comme vous l'entendez, mais faire du mal à sa famille, nul n'en a le droit. Le monsieur marié ne se rendit pas. Il répliqua : Je ne veux pas abandonner ma famille. Je dis seulement qu'il faut que la famille, les enfants, vivent, non pas selon les exigences du monde, non pas pour leur plaisir, mais qu'il faut les habituer à la pauvreté, au travail, à la charité et surtout à la vie fraternelle avec tous. Et que pour cela, il est nécessaire de renoncer aux avantages des honneurs et de la richesse. Il ne t'appartient pas de reprendre les autres tant que toi-même ne vis pas selon Dieu, objecta sa femme avec chaleur. Pendant toute ta jeunesse, tu n'as vécu que pour ton plaisir. Pourquoi donc veux-tu maintenant tourmenter ta famille, tes enfants ? Qu'ils grandissent tranquillement, et ensuite, ils agiront comme ils voudront. L'homme marié se tut, mais un monsieur âgé, qui était présent, intervint pour lui. « Admettons, dit-il, qu'un homme marié, qui a accoutumé sa famille à une certaine aisance, ne puisse pas, tout d'un coup, l'en priver. Il est vrai que si l'éducation des enfants est déjà commencée, il vaut mieux la terminer que de tout briser. D'autant plus que les enfants, une fois grands, choisiront eux-mêmes la voie qu'ils trouveront la meilleure. Je reconnais que pour un homme marié, il est difficile, impossible même, de changer entièrement sa manière de vivre, sans commettre de péché. Tandis qu'à nous, c'est Dieu même qui l'ordonne. Ainsi, moi je vis maintenant affranchi de tout devoir. Je ne vis, à vrai dire, que pour mon ventre. Je mange, je bois, je ne fais rien, et je suis dégoûté de moi-même. Pour moi, il est temps de renoncer à cette vie, de distribuer mes richesses, et au moins à la veille de ma mort, de vivre comme Dieu l'ordonne, de vivre en chrétien. Mais on ne fut pas de l'avis du vieillard. Il y avait là sa nièce, sa filleule, dont il avait tenu tous les enfants sur les fonts baptismaux, et auquel il faisait des cadeaux à chaque fête. Et son fils était également présent. Tous se mirent à lui faire des objections. Non, dit le fils, vous avez assez travaillé, vous avez besoin de vous reposer et de ne pas vous tourmenter. Vous avez vécu 60 ans dans les mêmes habitudes. Vous n'en pouvez pas changer maintenant. Ce serait vous tourmenter tout à fait et en vain. Parfaitement, ajouta la mère. Si vous étiez dans le besoin, vous seriez de mauvaise humeur, mécontent, et vous commettriez encore plus de péchés. Dieu est miséricordieux et pardonne à tous. Les pécheurs, surtout à vous, un si bon oncle. À quoi bon t'inquiéter de cela? Ajouta un autre vieillard du même âge que l'oncle. À toi comme à moi, il ne reste peut-être que 2 jours à vivre. Pourquoi recommencer toute une vie? C'est extraordinaire, fit un des auditeurs qui, tout le temps, s'était tu. C'est surprenant. Nous disons tous qu'il est bien de vivre selon Dieu, que nous vivons mal, que nous souffrons du corps et de l'âme. Et aussitôt qu'il est question d'agir, voilà qu'on objecte qu'il ne faut pas bouleverser la vie des enfants, les élever selon Dieu, mais les élever selon les anciennes idées. Les jeunes gens ne doivent pas braver la volonté de leurs parents, et ils ne doivent pas vivre selon Dieu, mais vivre comme autrefois. Les hommes mariés n'ont pas le droit de bouleverser la vie de leurs femmes et de leurs enfants, et doivent vivre non selon Dieu, mais vivre comme autrefois. Quant aux vieillards, il serait insensé à eux de commencer une vie à laquelle ils ne sont pas habitués, d'autant qu'il ne leur reste que 2 jours à vivre. La conclusion, c'est que personne ne peut vivre bien. Tout ce qu'on peut faire, c'est de disserter. Chapitre 1. Ceci se passait sous le règne de l'empereur romain Trajan, 100 ans après la naissance de Jésus-Christ. À cette époque, vivaient encore les disciples des disciples du Christ, et les chrétiens observaient fidèlement la loi du Maître, comme il est dit dans les Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui y avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et personne ne disait que ce qu'il possédait fût à lui en particulier, mais toute chose était commune entre eux. Et les apôtres rendaient témoignage avec beaucoup de force de la résurrection du Seigneur Jésus. Et il y avait une grande grâce sur eux tous, car il n'y avait personne parmi eux qui fût dans l'indigence, parce que tous ceux qui possédaient des fonds de terre ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils le mettaient aux pieds des apôtres, et on le distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. À cette époque, vivait à Tarse, dans la province de Cilicie, un riche marchand de pierres précieuses, un Syrien nommé Juvénal. Il était de très humble extraction, mais par son travail et son habileté, il était devenu très riche et s'était acquis le respect de ses concitoyens. Il avait beaucoup voyagé en divers pays et, sans être un savant, il avait vu et avait retenu bien des choses. Et ses compatriotes le tenaient en haute estime pour son intelligence et son équité. Il professait, comme tous les citoyens notables de l'Empire, la religion de Rome païenne, dont les formes et les cérémonies étaient rigoureusement imposées depuis l'empereur Auguste et qu'observait strictement l'empereur actuel, Trajan. La province de Cilicie était loin de Rome, mais elle était administrée par un gouverneur romain, et tout ce qui se faisait à Rome se faisait également en Cilicie, les gouverneurs tenant à imiter leur empereur. Juvénal se rappelait les histoires qu'il avait entendues dans son enfance sur la vie de Néron à Rome. Par la suite, il avait remarqué que chaque empereur, l'un après l'autre, était mort de mort violente. Et en observateur sagace, il s'était rendu compte qu'il n'y avait rien de sacré dans la religion romaine, et que tout cela était l'œuvre des hommes. La folie de toute la vie ambiante, surtout ce qui se passait à Rome, où il se rendait pour ses affaires, le troublait souvent. Il avait des doutes, mais ne pouvait tout connaître, et attribuait cela à son ignorance. Il était marié, avait eu 4 enfants, 3 étaient morts en bas âge, il ne lui restait plus qu'un fils nommé Jules. Juvénal avait reporté sur ce fils toute son affection et ses soins. Il s'appliquait avant tout à l'élever de façon à lui épargner plus tard dans la vie tous les doutes dont lui-même était assailli. Lorsque Jules atteignit sa 15e année, son père le confia aux soins d'un philosophe qui était venu s'établir dans la ville et qui acceptait comme élève des jeunes gens. Il confia son fils à ce maître, en même temps qu'un camarade de son fils nommé Pamphile. Pamphile était le fils d'un de ses esclaves affranchis décédés. Les jeunes gens étaient du même âge, tous les deux beaux garçons et amis. Ils s'appliquèrent sérieusement à l'étude et tous deux eurent une conduite exemplaire. Jules montrait un goût particulier pour la poésie et les mathématiques, tandis que Pamphile préférait la philosophie. 1 an avant le terme fixé pour la fin de leurs études, Pamphile vint un jour informer son maître que sa mère, qui était veuve, allait quitter la ville pour s'établir à Daphné, et qu'il se voyait obligé d'interrompre ses classes. Le maître déplora la perte d'un élève qui lui faisait tant d'honneur. Juvénal le regretta aussi. Mais personne n'en fut affligé que Jules. À toutes les demandes de demeurer afin de continuer ses études, Pamphile opposa un refus inébranlable. Il remercia vivement ses amis des preuves d'affection et des soins qu'ils lui avaient donnés, et il les quitta. 2 années s'écoulèrent. Jules avait terminé ses études sans revoir son ami pendant tout ce temps. Un jour, il le rencontra dans la rue et il l'invita à venir chez son père, où il le questionna sur la manière dont il vivait. Pamphile répondit qu'il demeurait toujours dans la même ville avec sa mère. « Nous ne vivons pas seuls, mais en commun, avec un grand nombre d'amis, et nous partageons tout entre nous, » dit-il. « Qu'est-ce que cela veut dire « en commun » demanda Jules. « Que nul ne considère une chose comme lui appartenant. Hein, pourquoi faites-vous cela ?»« Nous sommes chrétiens, » répondit Pamphile. « Est-ce possible ?» s'écria Jules. « Je me suis laissé dire que les chrétiens massacrent les petits-enfants et les mangent. Est-ce que tu prends part à cela ?»« Mais viens voir par toi-même, » répondit Pamphile. « Nous ne faisons rien d'extraordinaire. Nous vivons très simplement, en tâchant d'éviter le mal. » « Mais comment est-ce possible de vivre en ne considérant rien comme votre propriété ?»« Nous nous aidons mutuellement. Nous travaillons pour nos frères. Mais à leur tour, ils partagent avec nous les fruits de leur labeur. »« Si vos frères acceptent des services sans les rendre, comment faites-vous ?»« Nous n'avons pas de telle personne parmi nous, » répondit Pamphile. « Les gens de cette sorte aiment l'opulence et elles ne viennent pas chez nous qui vivons très simplement, sans aucun luxe. Oui, mais il existe bien des paresseux qui seraient heureux d'être nourris à ne rien faire. Il y a certainement de pareils individus, et nous les recevons volontiers. Nous avons accueilli dernièrement un homme de ce genre, un esclave fugitif. D'abord, il vécut en paresseux et très mal, mais bientôt il changea complètement. Aujourd'hui, il est devenu un très bon frère. Mais s'il ne s'était pas corrigé, il y en a aussi de cette catégorie. Cyril, le vieillard, dit que nous devons surtout traiter ceux-ci en frères les plus chers et les aimer plus que les autres. Mais est-il possible d'aimer des vauriens ? On ne peut pas ne point aimer un homme. Et comment faites-vous pour procurer à chacun tout ce qu'il peut vous demander ? Dit Jules. Si mon père accordait à chacun ce qu'il désire ou demande, il ne nous resterait bientôt plus rien ? Je ne sais pas, répondit Fanfil. Mais nous avons toujours assez pour satisfaire nos besoins. S'il arrive que nous n'ayons rien à manger ou rien pour nous vêtir, nous demandons aux autres ce qui nous manque et on nous le donne. Du reste, il est très rare que cela arrive. Il ne m'est arrivé qu'une fois de me coucher sans souper. Et ce fut parce que ce soir-là, j'étais tellement fatigué que je ne me sentais pas disposé à aller trouver l'un de mes frères pour lui demander à manger. Je ne prétends pas savoir comment vous arrangez les choses, dit Jules. Mais mon père affirme que s'il ne veillait pas à ses biens et donnait à tous ceux qui demandent, lui-même serait bientôt réduit à mourir de faim. Oh, nous ne mourrons pas de faim. Viens, viens, tu en jugeras par toi-même. Nous vivons et non seulement nous ne manquons de rien, mais nous avons même du superflu. Comment cela ? Voici, nous confessons tous la même loi, mais le degré de force que nous possédons pour l'observer n'est pas le même pour tous. Il est très grand chez les uns, très faible chez les autres. L'un s'est déjà perfectionné dans la bonne vie, tandis qu'un autre ne vient que commencer. Au-dessus de nous tous, il y a Christ et sa vie, et tous nos efforts tendent à les imiter. En cela seul consiste notre bonheur. Certains d'entre nous, comme le vieux Cyril et la femme Pélagie, sont plus avancés, d'autres le sont moins, d'autres sont encore plus en arrière, mais nous marchons tous vers le même but. Les premiers sont déjà très près de la loi du Christ, de l'abnégation complète. Ils n'ont besoin de rien, n'ont aucun souci d'eux-mêmes, et pour satisfaire à la loi du Christ, ils sont prêts à donner leur dernier vêtement. Les autres, plus faibles, ne peuvent sacrifier tout sans regret. Ils ont besoin d'être encouragés et soutenus. Ils ne peuvent supporter les vêtements et la nourriture, ordinaires, et ne donnent pas tout. Il y en a de plus faibles encore, et ils n'ont fait que les premiers pas sur la route du bien. Ceux-ci continuent, comme auparavant, à se préoccuper du lendemain, à amasser, et ne donnent que de l'or superflu. Ceux-ci viennent en aide à ceux qui sont en avant. En outre, par nos parents, nous avons des attaches avec le paganisme. L'un a un père païen qui est propriétaire et donne l'argent à son fils. Le fils dépense cet argent en aumône et le père envoie d'autres argent. Un autre a une mère païenne qui a pitié de son fils et lui donne aussi de l'argent. L'une est une mère chrétienne dont les enfants sont païens. Ceux-ci, pour assurer le bien-être de leur mère, lui donne ce qu'ils peuvent en la conjurant de ne pas le distribuer aux autres. Elle accepte par affection pour eux, mais néanmoins donne aux autres. Un quatrième cas est celui de la femme païenne. Un cinquième, c'est le mari qui est païen. C'est ainsi que tous sont mêlés. Ceux des premiers rangs seraient heureux de donner leur dernière bouchée, leur dernier vêtement, mais cela n'arrive jamais, car ce qu'ils donnent leur est toujours remplacé. De cette façon, les faibles sont fortifiés dans leur foi, et ceci explique aussi pourquoi nous avons toujours du superflu. Jules répondit : S'il en est ainsi, alors vous vous éloignez beaucoup de la doctrine du Christ et mettez l'apparence à la place du réel. si vous ne donnez pas tout, il n'y a pas de différence entre nous et vous. Suivant-moi, si l'on est chrétien, il faut exécuter tout, se dépouiller de tout et se résigner à la mendicité. C'est ce qu'il y aura de mieux, dit Pamphile. Fais cela. Oui, je le ferai quand vous m'aurez montré ce que vous faites. Nous ne voulons rien montrer. Je ne te conseille pas non plus de quitter ton milieu et de venir à nous uniquement pour faire de l'effet. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour le monde, mais en vertu de notre foi. Que veux-tu dire par là, en vertu de notre foi ? Je veux dire que la vie, selon la doctrine du Christ, peut seule nous affranchir des péchés de ce monde, ainsi que de la mort. Ce que dira le monde nous importe peu. Nous vivons ainsi, non pour le monde, mais parce que nous trouvons que c'est le seul moyen d'obtenir la vie et le bonheur. Il est impossible de ne pas vivre pour soi-même, objecta Jules. Les dieux eux-mêmes veulent que nous nous préférions aux autres et que nous recherchions tout ce qui peut procurer la joie et le plaisir. Vous autres chrétiens, c'est exactement ce que vous faites. Tu viens de me dire que parmi vous, il en est qui ont pitié d'eux-mêmes. Ils rechercheront de plus en plus la joie et rejetteront de plus en plus votre religion et feront absolument ce que nous faisons. Non, répliqua Pamphile. Les nôtres suivent une autre voie. Ils ne faiblissent jamais, mais deviennent de plus en plus forts, comme le feu qui ne s'éteint jamais tant qu'on y jette du bois, car c'est le propre de la foi. Je ne vois pas bien en quoi consiste votre foi. Notre foi consiste à comprendre la vie telle que Christ l'a expliquée. Comment cela ? Le Christ racontait la parabole suivante. Des vignerons cultivaient une vigne plantée par un propriétaire auquel ils devaient payer une redevance. Nous qui vivons dans le monde, nous sommes ces vignerons. Nous devons un tribut à Dieu, nous devons accomplir sa volonté. Mais ceux qui vivaient dans le monde s'imaginaient que la vigne leur appartenait, qu'ils n'avaient rien à payer et qu'ils pouvaient librement s'approprier les fruits. Le maître de la vigne envoya donc son serviteur pour percevoir le tribut. Les vignerons chassèrent le serviteur. Alors il envoya son fils, mais les vignerons le tuèrent, pensant qu'après cela, personne n'interviendrait plus. Telle est la foi du monde selon laquelle vivent tous les hommes qui ne reconnaissent pas que la vie nous est donnée uniquement pour servir Dieu. Le Christ nous a enseigné que la foi de ce monde, c'est-à-dire la croyance que l'homme sera plus heureux s'il chasse de la vigne, l'envoyé est le fils du maître et ne paye pas le tribut, est trompeuse, puisque chacun doit ou payer la redevance ou être chassé de la vigne. Christ nous a fait comprendre que ce que nous appelons les plaisirs, manger, boire, s'amuser, n'en sont pas, si nous croyons qu'en eux est toute la vie. Ils ne peuvent être le plaisir que si nous cherchons autre chose, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous savons que le bonheur n'est pas dans le plaisir, mais dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous croyons cela, c'est pourquoi nous ne pouvons accepter le mensonge à la place de la vérité. Nous conformons notre manière de vivre à cette conviction. Notre maître disait « Venez à moi, vous tous qui êtes travaillés et chargés, et je vous soulagerai. Prenez mon joug et suivez-moi, car je suis doux de cœur et vous trouverez le repos de l'âme, car mon joug est léger. » Ainsi parlait Pamphile. Jules l'écoutait et il était très touché, bien qu'il ne le comprît pas entièrement. Tantôt il lui semblait que Pamphile cherchait à le tromper, mais ayant regardé bien en face les bons yeux de son ami et se rappelant sa bonté, il pensa que Pamphile se trompait lui-même. Pamphile invita Jules à venir chez eux pour voir comment ils vivaient et rester avec eux si leur vie lui plaisait. Jules promit, mais il n'alla point chez Pamphile, et emporté par la vie, il oublia vite son ami. Chapitre 2. Le père de Jules était riche et aimait beaucoup son fils unique. Il était fier de lui, il lui donnait largement l'argent dont il avait besoin. Jules vivait comme vivent la plupart des jeunes gens riches, dans l'oisiveté, le luxe et les plaisirs de la débauche, qui sont toujours les mêmes. Le vin, le jeu, les femmes. Cependant, ces plaisirs coûtant fort cher, bientôt Jules se trouva sans argent. Un jour, il demanda à son père plus que celui-ci lui donnait ordinairement. Le père donna, mais en reprochant à son fils sa prodigalité. Le fils se sentait coupable, mais il ne voulut pas reconnaître ses torts et il alla même jusqu'à répondre avec impertinence à son père, comme font toujours ceux qui reconnaissent qu'ils ont tort, mais ne veulent pas l'avouer. Il eut bientôt dépensé l'argent qu'on lui avait donné, et par surcroît, quelques jours plus tard, dans une rixe, après boire, Jules tua un homme. Le préfet de la ville, informé de l'événement, voulut incarcérer Jules, mais son père obtint grâce pour lui. À ce moment, Jules eut encore besoin d'argent. Il emprunta à un ami, lui promettant de le rembourser. En outre, sa maîtresse lui demanda en cadeau un collier de perles. Il savait qu'elle le quitterait s'il ne lui donnait pas, pour accepter les propositions d'un de ses rivaux très riches. Cette fois, Jules alla trouver sa mère et lui dit que si elle ne pouvait lui procurer la somme dont il avait besoin, il se tuerait. Ce n'est pas lui-même, mais son père qu'il rendait responsable de sa situation. Il disait « Mon père m'a élevé dans le luxe et maintenant il me marchande l'argent nécessaire. Si au début il m'avait donné sans reproche ce que j'ai obtenu plus tard, j'aurais arrangé ma vie et n'aurais plus besoin de rien. Mais comme il ne me donnait jamais assez, j'ai dû m'adresser aux usuriers qui m'ont dépouillé. Je ne possède plus rien pour mener la vie de jeune homme riche qui doit être la mienne. Je suis humilié devant mes camarades. Mais mon père ne veut rien entendre. Il oublie qu'il a été jeune aussi. C'est lui qui est coupable si j'en suis arrivé là. Et si je ne puis obtenir la somme qui m'est nécessaire, je me tuerai. » Sa mère, qui l'avait gâté, alla aussitôt trouver son mari. Le père envoya chercher le fils et les malmena tous deux. Jules répondit d'une façon insolente. Son père le frappa. Jules leva la main sur lui. Le père appela ses esclaves qui, sur son ordre, lièrent et enfermèrent son fils. Resté seul, Jules se mit à maudire son père et sa vie. Sa propre mort ou celle de son père était pour lui l'unique issue de la situation dans laquelle il se trouvait. La mère souffrait bien plus encore. Elle ne se demandait pas de quel côté étaient les torts. Elle n'avait que de la pitié pour son enfant chéri. Elle alla de nouveau trouver son mari et implora son pardon. Le mari resta sourd à ses prières et lui reprocha d'avoir gâté son fils. À son tour, elle s'emporta contre son mari et celui-ci finit par frapper sa femme. Mais sans faire attention au coup, la mère courut trouver son fils et l'exhorta à demander pardon à son père, à se soumettre à lui. En revanche, elle lui promit de lui fournir l'argent dont il avait besoin, sans en rien dire au père. Le jeune homme consentit. Alors la mère se rendit près de son mari et lui demanda de pardonner à leur fils. Le père, après avoir accablé longtemps sa femme et son fils de reproches, voulut bien accorder son pardon à la condition que Jules abandonnerait sa vie déréglée et épouserait la fille d'un riche négociant dont il se chargeait d'obtenir le consentement. « Je lui donnerai de l'argent, ajouta-t-il, et il aura la dot de sa femme, qu'il commence alors à mener une vie régulière. À ces conditions, je lui pardonnerai. Mais pour le moment, je ne lui donnerai rien. Et à sa première incartade, je le remettrai entre les mains du préfet. » Jules accepta ces conditions et recouvra sa liberté. Il prit l'engagement de se marier et de s'amender, mais sans aucune intention de faire l'un et l'autre. Sa vie dans la maison devint un enfer. Le père ne lui adressait pas la parole, il querellait sa femme à cause de lui, et celle-ci ne faisait que pleurer. Le lendemain, sa mère lui remit secrètement les pierres précieuses qu'elle avait dérobées à son mari. « Les voici, » dit-elle, « prends-les et vends-les, mais pas dans cette ville, et dispose à ton gré de l'argent que tu en tireras. Je ferai de mon mieux pour qu'on ne s'aperçoive pas de leur disparition, mais si le vol est découvert, j'en accuserai un de nos esclaves. » Ces paroles troublèrent l'âme de Jules. Il fut épouvanté de ce qu'elle avait fait, et sans prendre les pierres précieuses, il quitta précipitamment la maison. Pourquoi partait-il? Où allait-il? Il l'ignorait. Il sortit de la ville et marcha longtemps, cherchant la solitude pour méditer sur son passé et réfléchir sur son avenir. Il allait toujours en avant, laissant la ville derrière lui, et il arriva dans un bois consacré à la déesse Diane. Ayant trouvé là un endroit écarté, il se mit à réfléchir. Sa première pensée fut d'invoquer le secours de la déesse, mais il ne croyait plus aux dieux et savait qu'on ne peut attendre d'eux aucun soulagement. Alors à qui s'adresser? Et il lui semblait étrange d'être forcé de réfléchir lui-même à sa situation. Dans son âme, il n'y avait que trouble et ténèbres. Cependant, il n'avait d'autre ressource que de rentrer en lui-même et d'interroger sa conscience sur tous les principaux actes de sa vie. Tout lui parut mauvais et principalement sot. Pourquoi se tourmenter autant? Pourquoi avait-il perdu ses jeunes années? Il y avait peu de joie et beaucoup de chagrin et de malheur. Le pire, c'est qu'il se sentait seul. Jusqu'à ce jour, il avait eu une mère aimante, un père affectueux, même des amis. Maintenant, il se trouvait seul. Personne ne l'aimait. Il était à charge à tout le monde. Il n'était qu'un obstacle dans la vie de chacun. Il avait mis le désaccord entre son père et sa mère. Il avait gaspillé les richesses que son père avait amassées par toute une vie de labeur. Pour ses amis, il était devenu un rival, dangereux et désagréable. Eux tous, probablement, désiraient sa mort. En se remémorant sa vie, il se rappela Pamphile, sa dernière rencontre avec lui et son invitation à venir chez les chrétiens. Et il lui passa en tête de ne pas rentrer à la maison, mais d'aller directement chez les chrétiens et de demeurer avec eux. « Ma situation est-elle donc si désespérée ?» se dit-il. De nouveau, il se remémora tout ce qui lui était arrivé. Et de nouveau, il fut horrifié à la pensée que personne ne l'aimait et qu'il n'aimait personne. Père, mère, amis ne pouvaient plus nourrir d'affection pour lui et ne pouvaient que souhaiter sa mort. Et lui-même, aimait-il quelqu'un? Des amis? Il sentait qu'il n'en aimait aucun. Tous étaient ses rivaux. Tous étaient impitoyables pour lui dans le malheur. « Mon père ?» se demanda-t-il. Et l'horreur le saisit. Quant à cette question, il regarda dans sa conscience. Non seulement il n'aimait pas son père, mais il le haïssait pour les offenses qu'il lui avait faites. Si encore il n'avait fait que le haïr, mais il voyait clairement que pour son bonheur à lui, la mort de son père était nécessaire. « Oui ?» se demanda Jules. « Si j'étais sûr que personne ne pût me voir, que nul ne pût découvrir mon crime, que ferais-je » Et il se répondit « Je le tuerais. » Il se répondit cela et en fut horrifié. « Et ma mère ? J'ai de la pitié pour elle, mais je ne l'aime pas non plus. » Elle m'est indifférente. Tout ce que je veux, c'est son aide. Oui, je suis une bête fauve, une bête traquée, aux abois. La seule différence entre moi et la bête fauve, c'est que je puis, si je le veux, quitter cette vie maudite. Je puis faire ce que ne peut faire la bête fauve. Je puis me tuer. Je hais mon père. Je n'aime personne. Pas même ma mère ni mes amis. Peut-être Pamphile, seul. Et de nouveau, il pensa à lui. Il se rappela leur dernière rencontre, leur conversation et les paroles du Christ répétées par Pamphile. « Venez à moi, vous qui souffrez et qui êtes surchargés, et je vous donnerai le repos. » Si c'était vrai. Soudain, il se rappela l'expression douce, sereine, mais joyeuse du visage de Pamphile, et il souhaita ardemment de pouvoir croire ce qu'il lui avait dit. « Que suis-je en effet ?» se dit-il. « Je suis un homme qui cherche le bonheur. Je l'ai cherché dans la débauche et ne l'ai pas trouvé. Tous ceux qui vivent comme j'ai vécu ne le trouvent pas non plus. Ils sont méchants et ils souffrent. Ailleurs, il existe un être toujours heureux parce qu'il ne cherche rien. Il me dit qu'il y en a beaucoup comme lui et que chacun peut devenir tel en observant les préceptes donnés par son maître. Si tout cela était vrai pourtant. Vrai ou non, il y a là quelque chose qui m'attire. J'y vais. » Jules sortit du bosquet, décidé à ne jamais rentrer chez lui, et porta ses pas vers l'endroit habité par les chrétiens. Chapitre 3. Jules marchait d'un pas allègre et le cœur joyeux. À mesure qu'il approchait du village, plus vive devenait sa représentation de la vie des chrétiens, plus il se rappelait ce que lui avait dit Pamphile, et plus il se sentait l'âme joyeuse. Le soleil était à son déclin, et Jules se disposait à se reposer un moment, lorsqu'il se trouva en face d'un homme qui se reposait aussi en prenant son repas. Cet homme était d'un certain âge et paraissait très intelligent. Il était assis et mangeait du pain et des olives. En apercevant Jules, il lui dit en souriant « Bonsoir, jeune homme. Tu as une longue route devant toi. Assieds-toi et repose-toi. » Jules le remercia et s'assit. « Où vas-tu ? » lui demanda l'inconnu. « Chez les chrétiens, » répondit Julius, et après avoir échangé plusieurs questions, il lui raconta sa vie et lui dit sa résolution. L'étranger écoutait attentivement, demandait des détails, mais lui-même n'exprimait pas son opinion. Quand Jules eut terminé, l'inconnu rangea dans son sac les provisions qui lui restaient, rajusta son habit et lui dit « Ne fais pas cela, jeune homme. Tu es dans l'erreur. Je connais la vie. Tu ne la connais pas. Je connais les chrétiens. Toi, tu ne les connais pas. Écoute, je vais t'exposer toute ta vie et tes pensées, et quand tu les auras entendues de moi, tu prendras la décision que tu jugeras la meilleure. Tu es jeune, tu es riche, beau, vigoureux, les passions bouillonnent en toi. Tu cherches une retraite calme, dans laquelle tu ne seras plus troublé par ces passions, afin d'éviter les souffrances qu'elles produisent, et tu penses trouver cette retraite parmi les chrétiens. Mon cher jeune homme, il n'existe pas de refuge pareil, parce que le mal dont tu souffres ne se trouve ni en Cilicie ni à Rome, mais en toi-même. Dans le calme de la solitude des champs, ces passions te tourmenteront 100 fois plus. La faute ou l'erreur des chrétiens, je ne veux pas les juger, consiste précisément en ce qu'ils méconnaissent complètement la nature humaine. Les seules personnes qui puissent réellement mettre en pratique leurs préceptes, ce sont les vieillards, en qui toutes les passions sont éteintes. Un homme à la fleur de l'âge et plein de force, ou un jeune homme comme toi, qui n'a pas encore goûté à la vie et qui ignore ce qu'il désire, ne peut se soumettre à leur loi, car cette loi est établie non selon la nature humaine, mais selon des raisonnements spécieux. Si tu vas chez les chrétiens, tu souffriras comme maintenant, et même davantage. Jusqu'ici, tes passions t'ont égaré et t'ont poussé dans une voie fausse, mais tu peux encore réparer ta faute. Ce qui ne t'empêchera pas cependant de satisfaire tes passions et de jouir de la vie. Parmi eux, au contraire, réfrénant tes passions, tu seras dans la même erreur. Mais de plus, à cette souffrance s'ajoutera celle de besoins humains non satisfaits. Donner un libre cours aux eaux, elles arrosent la terre, font pousser les plantes, abreuvent les bestiaux, fertilisent les pâturages. Endiguées, elles creusent le sol et se transforment en boue. Il en est ainsi des passions. La doctrine des chrétiens qui règle leur vie à l'exception de certaines croyances qui les consolent et les réconfortent, et dont je ne parlerai pas, se résume dans les préceptes suivants. Ne pas admettre la violence, ni la guerre, ni les tribunaux, nier la propriété, et les arts, et les sciences, en un mot, tout ce qui tend à rendre la vie agréable. Tout cela irait bien si tous les hommes étaient tels que leur maître. Mais cela n'est pas, et ne peut être. Les hommes sont méchants, et esclaves de leurs passions. Le jeu des passions et les conflits qui en résultent retiennent les hommes, dans les conditions de la vie où ils se trouvent. Les barbares ne connaissent aucune entrave, et un seul d'entre eux, donnant libre cours à ses instincts et à ses passions, détruirait le monde entier, si tous les hommes se résignaient, humblement, comme les chrétiens, à le supporter. Si les dieux ont doué les hommes de sentiments de colère, de vengeance, de haine, même contre les méchants, ils l'ont fait parce que ces sentiments sont nécessaires à la conservation de la vie humaine. Les chrétiens prétendent que ces sentiments sont mauvais, que sans eux les hommes seraient heureux, qu'il n'y aurait plus d'assassinats, de supplices, de guerres. Cela est vrai comme de supposer que, pour leur bien-être, les hommes ne doivent pas manger. Dans ce cas, en effet, il n'y aurait ni avidité, ni faim, ni toutes les calamités qui en résultent. Mais cependant, cette supposition ne change pas la nature humaine. Si quelque individu 20 ou 30 voulait faire cette tentative et renoncer à manger, il mourrait de faim, et cela ne changerait en rien la nature humaine. Il en est ainsi de toutes les autres passions, l'indignation, la colère, l'orgueil, la vengeance, l'amour sexuel, l'amour du luxe, de la gloire, qui sont propres aux dieux et sont les traits naturels de l'homme, supprime la nourriture de l'homme, l'humanité disparaîtra. De même, si tu supprimes les passions propres à l'homme, l'humanité disparaîtra. Cette observation s'applique également au principe de la propriété, que, dit-on, les chrétiens nient. Regarde autour de toi. Chaque vigne, chaque haie, chaque maison, chaque ânesse, tout cela n'est possible qu'avec la propriété. Si on l'abolit, on ne plantera plus une seule vigne, on n'élèvera pas, on ne dressera plus un seul animal. Les chrétiens prétendent qu'ils ne possèdent pas et qu'ils jouissent seulement des fruits de la propriété. Ils disent qu'ils ont tout en commun et qu'ils réunissent tous leurs biens, mais tout ce qu'ils apportent et tout ce qu'ils reçoivent, ils le tiennent de gens qui possèdent la propriété. Ils ne font que tromper les autres, ou dans les meilleurs cas, se trompent eux-mêmes. Tu me dis qu'ils travaillent de leurs mains pour se nourrir. Mais ce qu'ils produisent ne suffirait pas à les faire vivre s'ils ne profitaient pas de ce qui a été produit par des gens qui reconnaissent la propriété. S'il leur était possible de vivre de leurs propres ressources, il n'y aurait point de place dans leur système social pour les arts et les sciences. Il nie les avantages de nos arts et de nos sciences. Ils ne peuvent faire autrement. La pratique de leur enseignement tend à ramener l'homme à son état primitif, à la sauvagerie, à la bestialité. Ils ne peuvent servir l'humanité par les sciences et les arts, et comme ils les ignorent, ils les nient. Ils ne peuvent non plus servir l'humanité par les dons qui sont propres à l'homme et le rapprochent des dieux. Ils n'ont ni temple, ni statue, ni théâtre, ni musée. Ils disent qu'ils n'en ont pas besoin. Le meilleur moyen de ne pas rougir de sa propre bassesse, c'est de mépriser la noblesse. C'est ce qu'ils font. Ils sont impies. Ils refusent de reconnaître les dieux et leur intervention dans les affaires humaines. Ils ne reconnaissent que le père de leur maître, qu'ils appellent leur père, et qui, disent-ils, leur a révélé tous les secrets de la vie. Leur doctrine est une misérable tromperie. Comprends bien ce que je vais dire. Notre croyance à nous est que l'univers est maintenu par les dieux qui veillent sur les hommes et les protègent. Pour vivre bien, les hommes doivent honorer les dieux et rechercher la vérité et la justice. Par conséquent, d'un côté, c'est la volonté des dieux qui guide notre vie, de l'autre, la sagesse collective du genre humain. Nous vivons, nous pensons, nous cherchons, et aussi nous nous rapprochons de la vérité. Les chrétiens, au contraire, n'ont ni Dieu, ni volonté divine, ni sagesse humaine. Ils n'ont qu'une chose, la foi aveugle en leur maître crucifié et en ce qu'il leur a enseigné. Maintenant, décide toi-même de ce qui doit nous guider plus sûrement. La volonté des dieux et l'activité et la sagesse de toute l'humanité, ou la foi aveugle dans les paroles d'un seul homme. Jules était frappé de ce que disait l'étranger et surtout de ses dernières paroles. Non seulement sa résolution d'aller chez les chrétiens en fut ébranlée, mais encore il lui paraissait incroyable que ses malheurs eussent pu le pousser jusqu'à commettre une aussi grande folie. Toutefois, il y avait une question encore à résoudre. Que devait-il faire pour échapper à la situation embarrassée dans laquelle il se trouvait? Après avoir raconté à l'étranger quelle était sa situation, il lui demanda son avis. « J'allais justement aborder ce sujet, » répondit-il. « Que dois-tu faire? Ta voix, autant du moins que la sagesse humaine, peut me l'indiquer, me paraît parfaitement claire. Tes peines proviennent des passions propres aux hommes. La passion t'a entraîné si loin que tu as souffert. Telles sont ordinairement les leçons de la vie. Apprends et fais ton profit. Tu as déjà assez vécu pour savoir qu'il est des choses douces et des choses amères, et tu ne veux plus retomber dans les mêmes erreurs. Profite de ton expérience. Ce qui te tourmente le plus, c'est ton inimitié envers ton père. Cela vient de ta propre attitude. Change d'attitude, et cette haine disparaîtra, ou du moins ne se manifestera pas d'une façon aussi pénible. Tous tes malheurs proviennent de ce que tu n'as pas su t'arrêter à temps. Tu t'es adonné à tous les plaisirs de la jeunesse, ce qui est tout à fait naturel et partant bien. Cela était bien tant que cela fut de ton âge. Mais le temps a passé. Tu es devenu un homme, tout en continuant à t'adonner au plaisir de la jeunesse. Voilà ce qui est mal. Tu es maintenant arrivé à l'âge où l'homme doit devenir citoyen et servir la patrie et travailler pour le bien public. Ton père te propose de te marier. Son conseil est sage. Une période de ta vie a pris fin, la jeunesse. Tu passes à une autre. Tous tes doutes, toutes tes souffrances ne sont que des symptômes de cette transformation. Regarde résolument la vérité en face. Tu reconnaîtras que la jeunesse est passée. Rejette donc tout ce qui appartient à cette époque de ta vie, et sans plus t'attarder. Marche dans la voie qui convient à l'homme fait. Marie-toi. Renonce aux amusements frivoles de la jeunesse. Applique ton esprit au commerce, aux affaires publiques, aux sciences, aux arts. Et non seulement tu te réconcilieras avec ton père et tes amis, mais tu trouveras le repos et le bonheur. Ce qui t'a surtout troublé, c'est l'anomalie de ta situation. Aussi, te conseillerais-je tout d'abord d'accéder au désir de ton père, de te marier. Si tu crois que l'isolement et la retraite que tu allais chercher près des chrétiens puissent avoir des charmes pour toi, si l'étude de la philosophie t'attire davantage que l'activité publique, tu ne peux t'y adonner fructueusement qu'après avoir reconnu ce qui est la vraie vie. Tu ne peux acquérir cette connaissance qu'en devenant citoyen, indépendant et père de famille. Cela acquis, si tu te sens encore attiré vers la retraite et la contemplation, tu pourras suivre ton penchant sans hésitation, car ce ne sera plus par dépit comme en ce moment. Ces dernières paroles firent disparaître les hésitations de Jules. Il remercia l'inconnu et retourna chez lui. Sa mère le reçut avec joie. Son père, mis au courant de sa résolution de se soumettre à sa volonté et d'épouser la jeune fille qu'on lui destinait, se réconcilia avec lui. Chapitre 4. Trois mois après, le mariage de Jules avec la belle Eulampie était célébré, et Jules, ayant tout à fait changé ses habitudes, s'installait dans sa maison à lui et s'occupait d'une partie du commerce que lui avait transmis son père. Un jour, s'étant rendu pour ses affaires à une petite ville voisine, comme il était assis dans la boutique d'un marchand, il aperçut Pamphile qui passait devant la porte, accompagné d'une jeune fille qu'il ne connaissait pas. Tous deux portaient leur charge de raisins qu'ils offraient à vendre. Jules, reconnaissant son ami, sortit le trouver et lui demanda d'entrer dans la boutique pour causer avec lui. La jeune fille, voyant que Pamphile désirait entrer dans la boutique, mais qu'il hésitait à la laisser seule, se hâta de lui dire qu'elle n'avait pas besoin de ses services et qu'elle garderait seule les raisins. Pamphile la remercia et suivit Jules qui demanda à son ami, le marchand, la permission d'entrer dans une pièce intérieure avec Pamphile. Les deux amis s'entretinrent alors des divers changements survenus dans leur existence. La vie de Pamphile s'était passée sans incident, sans changement. Depuis qu'il s'était vu, il vivait toujours dans la communauté chrétienne, était encore célibataire, et il affirmait à son ami que chaque année, chaque jour, chaque heure, lui apportait un plus grand bonheur. Jules, à son tour, raconta à son ami tout ce qui lui était arrivé, comment il avait failli devenir chrétien et le serait devenu, sans sa rencontre avec un étranger qui lui avait ouvert les yeux sur les erreurs des chrétiens, et l'avait persuadé que son devoir était de se marier. Conseil qu'il avait en effet suivi. « Eh bien, es-tu heureux maintenant ?» demanda Pamphile. « As-tu trouvé dans le mariage les satisfactions promises par l'étranger ?»« Heureux !» répéta Jules. « Qu'est-ce que cela veut dire ? Si l'on doit entendre par là la réalisation parfaite de nos désirs, alors je ne suis pas heureux. » Je gère mes affaires assez habilement. Mes voisins commencent à me respecter et l'une et l'autre chose me donnent beaucoup de satisfaction. Je connais, il est vrai, bien des citoyens plus riches et plus estimés que moi, mais je prévois qu'un jour viendra où je les égalerai et même les surpasserai. Sous ce rapport, je suis donc satisfait de ma vie. Quant à mon mariage, je t'avouerai franchement qu'il ne me satisfait point. Je dirais même plus, je reconnais que cette union qui devait m'apporter la joie ne me l'a pas donnée. Le plaisir que j'en tirais au commencement a été en décroissant depuis. Et maintenant, au lieu du bonheur parfait que j'espérais, je suis en face de la douleur. Ma femme est belle, elle est intelligente, savante et très bonne. Les premiers temps, j'ai été parfaitement heureux. Mais à présent, tu ne peux comprendre tout cela puisque tu n'es pas marié. De nombreuses causes de discorde s'élèvent entre nous. Elles cherchent mes caresses lorsque je suis indifférent pour elles, et inversement. L'amour exige la nouveauté. Une femme beaucoup plus laide que la mienne m'attire davantage pendant quelque temps. Ensuite, elle me paraît moins séduisante que ma femme. J'ai éprouvé cela déjà. Non, je dois avouer que je n'ai pas trouvé dans le mariage la satisfaction. Mon ami, conclut Jules, les philosophes ont raison. La vie ne peut satisfaire toutes les aspirations de l'âme. J'en ai éprouvé la vérité dans le mariage. Mais cela ne prouve pas que votre mensonge ne puisse les satisfaire, dit Jules en souriant. En quoi vois-tu notre mensonge ? Demanda Pamphile. Votre mensonge, voici en quoi il consiste. Pour délivrer l'homme des malheurs, inséparables des affaires de la vie, vous niez toutes ces affaires, et la vie elle-même. Afin d'épargner à l'homme la désillusion, vous renoncez à toutes les illusions. Vous n'admettez même pas le mariage. Nous ne répudions pas le mariage, protesta Pamphile. Si vous ne répudiez pas le mariage, alors c'est l'amour que vous n'admettez pas. Au contraire, nous répudions tout sauf l'amour. L'amour est pour nous la base de tout. Je ne te comprends pas, dit Jules. D'après ce que j'ai entendu des autres, et du fait que toi-même, qui est en âge d'être marié, ne l'est pas encore, je m'étais imaginé que chez vous le mariage n'existait pas. Ceux qui sont mariés restent dans les liens conjugaux, mais les autres ne contractent pas mariage. Vous ne pensez pas à la propagation de la race humaine. Si la terre n'était peuplée que des chrétiens, l'humanité cesserait d'exister, dit Jules, répétant ce qu'il avait entendu maintes fois. Ce n'est pas exact, répondit Pamphile. Il est vrai que nous n'avons pas pour but la perpétuation de la race humaine, et que nous faisons de cela moins de cas que n'en font certains de vos sages. Nous supposons que notre père en prendra lui-même soin. Notre but à nous est de vivre conformément à sa volonté. S'il veut que la race humaine existe, il trouvera les moyens de la perpétuer. Sinon, elle s'éteindra inévitablement. Cela ne nous regarde pas. Notre affaire à nous consiste à vivre selon sa volonté. Sa volonté s'exprime dans la Révélation où il est dit que l'homme s'attachera à sa femme et qu'ils ne feront qu'une seule chair. Non seulement le mariage n'est pas défendu par nos lois, mais il est encouragé par nos anciens, qui connaissent parfaitement la loi. La différence entre vos mariages et les nôtres, c'est que notre loi condamne formellement tout regard de convoitise jeté sur une femme. Nous et nos femmes, au lieu de nous parer et de provoquer le désir charnel, nous tâchons de l'éloigner afin de que le sentiment d'amour fraternel soit entre nous plus fort que le désir d'une seule femme que vous appelez l'amour. Mais vous ne pouvez cependant pas supprimer le sentiment que l'on éprouve à la vue de ce qui est beau, dit Jules. Je suis certain, par exemple, que cette belle jeune fille avec laquelle tu as apporté les raisins a éveillé en ton cœur le sentiment de l'amour, en dépit de ses vêtements qui dissimulent ses charmes. Je l'ignore encore, dit Pamphile en rougissant. Je n'ai jamais pensé à sa beauté. Tu es le premier à m'en parler. Elle n'est qu'une sœur pour moi. Mais revenons à ce que je te disais au sujet de la différence entre vos mariages et les nôtres. Elle provient de ce que, sous prétexte de rendre un culte à la beauté et à la déesse Vénus, vous donnez libre cours à votre ardeur sensuelle. Tandis que nous, au contraire, nous l'évitons. Non seulement parce que nous croyons que c'est un mal, Dieu n'a créé aucun mal, mais parce que le bien peut devenir un mal quand il n'est pas maintenu à sa place. Dans ce cas, nous l'appelons le scandale. Et nous faisons tous nos efforts pour l'éviter. Voilà pourquoi je ne suis pas encore marié, mais rien ne m'empêche de me marier demain. Et qu'est-ce qui déterminera ton choix? La volonté de Dieu. Et comment la reconnaîtras-tu? Si on ne cherche jamais sa manifestation, on ne la trouve jamais. Mais si l'on cherche, on trouve toujours des indications claires, aussi claires que la divination dans les sacrifices, le vol des oiseaux. Vous avez parmi vous des sages qui interprètent la volonté des dieux d'après leur propre connaissance, et les signes révélés par les entrailles des victimes ou le vol des oiseaux. Nous aussi, nous avons nos sages qui nous font connaître la volonté du Père par la révélation du Christ, par ce que leur dicte leur cœur, par les pensées des autres, et surtout par l'amour pour leurs semblables. Tout cela est bien vague, objecta Jules. Qui t'indiquera, par exemple, avec qui et quand tu dois te marier? Pour moi, lorsque le moment vint de me marier, j'avais le choix entre trois jeunes filles. Elles avaient été choisies entre toutes les autres parce qu'elles étaient belles, riches, et que mon père consentait à l'avance à mon union avec l'une ou l'autre d'entre elles. Et ce fut parmi ces trois que je choisis Eulampie, parce qu'elle me parut la plus jolie, la plus attrayante. Cela est naturel. Mais toi, qu'est-ce qui guidera donc ton choix? Avant de répondre directement à cette question, dit Pamphile, permets-moi de te dire d'abord que dans notre religion, tous sont égaux, aussi bien au point de vue physique que moral. Notre choix est donc illimité. N'importe quel homme, n'importe quelle femme peut devenir le mari d'une chrétienne ou la femme d'un chrétien. Et cela rend le choix d'une femme encore plus difficile, dit Jules. Je te répéterai ce que l'un de nos anciens me disait au sujet de la différence qui existe entre les ménages chrétiens et les ménages païens. Le païen, comme toi, choisit sa femme parmi celles qui peuvent lui donner personnellement le plus de plaisir. Aussi ses regards en sont-ils troublés, et il lui est difficile de décider, d'autant plus que le plaisir est encore dans l'avenir. Au contraire, le chrétien n'est pas embarrassé par ce choix personnel, ou plutôt ses considérations n'ont pour lui qu'un intérêt secondaire. Sa première pensée est de veiller à ce que son mariage ne soit pas contraire à la volonté de Dieu. Mais comment un mariage peut-il être contraire à la volonté de Dieu? Si j'avais oublié l'Iliade que nous avons étudiée et lue ensemble autrefois, ce serait assez excusable de ma part. Mais toi, qui vis parmi les philosophes et les poètes, tu n'as pas le droit de l'oublier. Qu'est-ce que l'Iliade? C'est l'histoire du péché contre la volonté de Dieu par le mariage. Ménélas, Paris, Hélène, Achille, Agamemnon, Chryséis sont les personnages qui illustrent les calamités terribles survenue à la suite de la violation de cette volonté. Mais cette violation, en quoi consiste-t-elle? Dans le fait que l'homme aime, dans une femme, non pas la créature humaine, mais la jouissance personnelle que son union avec elle procurera, et qu'il l'épouse pour obtenir ce plaisir. Un mariage chrétien n'est possible que si l'homme est pénétré de l'amour de ses semblables, et si la personne qu'il épouse, qu'il va associer à sa vie, est avant tout l'objet de cette affection fraternelle. Il est raisonnable et sage de ne bâtir une maison que sur ses fondations, de ne peindre un tableau que si l'on a tout ce qui est nécessaire pour le peindre. Ainsi, l'amour charnel ne peut être légitime, raisonnable et durable s'il n'a pour base l'affection et le respect que tout homme toi à un autre. Sur cette base seulement, il est possible d'établir la vie de famille chrétienne. Cependant, je ne vois pas encore pourquoi le mariage que tu appelles chrétien exclut cette sorte d'amour éprouvé par Paris, dit Jules. Je ne dis pas que le mariage chrétien n'admet pas l'amour exclusif. Au contraire, le mariage n'est raisonnable et sain qu'à cette condition. Mais l'amour exclusif pour une femme ne peut naître que si l'amour général pour l'humanité n'est pas anéanti. Cet amour exclusif pour une femme, chanté par les poètes, reconnu excellent même, n'étant pas basé sur l'amour de l'homme pour ses semblables, ne mérite pas le nom d'amour. Ce n'est qu'un simple désir animal qui se change souvent en haine. La meilleure preuve que ce prétendu amour, non basé sur l'amour fraternel pour tous les hommes, devient bestial, c'est la violence qu'exerce l'homme sur la femme qu'il prétend aimer et qu'il fait souffrir. Il est évident que là où il y a violence, il n'y a pas amour. Il n'est pas rare de voir user de violence dissimulée dans les mariages non chrétiens. Souvent, un homme épouse une jeune femme qui ne l'aime pas ou qui en aime un autre, et il n'a pas pitié d'elle pourvu qu'il satisfasse sa passion. Admettons qu'il en soit ainsi, dit Jules. Mais quand la jeune fille aime, alors il n'y a pas de violence, et je ne vois pas la différence entre le mariage chrétien et le mariage païen. Je ne connais pas les détails de ton mariage, répondit Pamphile. Mais il est bien évident, pour moi, que tout mariage qui a pour base le plaisir personnel est fatalement une source de discorde. De même, les bêtes et les hommes, qui se distinguent très peu des bêtes, ne peuvent pas se nourrir sans qu'éclatent des querelles et des rixes. Chacun veut le bon morceau, et comme il n'y a pas assez de bons morceaux pour tous, la discorde s'allume. Si elle n'est pas apparente, elle existe cependant. Le faible désire un bon morceau, mais il sait que le fort ne lui donnera pas, et qu'il lui est impossible de l'arracher au fort. Alors il l'observe, le regarde méchamment et profite de la première occasion pour lui ravir le morceau. Il en est ainsi des mariages païens, mais bien pire encore, car l'objet de la convoitise est dans ce cas un être humain. Ainsi la haine s'élève entre les époux mêmes. Mais comment faire que deux personnes qui veulent se marier s'aiment l'une l'autre exclusivement? Un homme ou une jeune fille aura toujours aimé une autre personne, et alors, selon vous, le mariage entre eux est impossible. Je vois bien qu'ils ont raison, ceux qui disent que vous ne vous mariez pas. Tu es célibataire et tu le resteras probablement toujours. Comment peut-on croire qu'un homme qui épouse une jeune fille n'ait jamais enflammé le cœur d'une autre femme auparavant, ou qu'une jeune fille arrivée à l'âge de se marier n'ait jamais provoqué un sentiment d'amour dans le cœur d'un autre homme? Qu'aurait dû faire Hélène? Cyrille, notre ancien, disait ceci. Dans le monde païen, les hommes, sans avoir pensé au devoir d'aimer leurs semblables comme des frères, sans avoir rien fait pour développer ce sentiment, ne recherchent qu'une chose. Exciter dans leur cœur l'amour passionné de la femme, et ils développent en eux cette passion. C'est la raison pour laquelle toute Hélène, ou toute femme ressemblant à Hélène, excite la passion de plusieurs hommes. Les rivaux combattent l'un contre l'autre et tâchent à l'emporter comme des bêtes pour une femelle. Et leur mariage est toujours plus ou moins un viol. Dans notre communauté, non seulement nous ne pensons jamais à jouir personnellement de la beauté, mais nous évitons tout ce qui pourrait nous tenter, tout ce dont le monde païen fait un objet d'adoration. Au contraire, nous pensons au devoir de respect et d'amour envers le prochain, que nous avons envers chacun indifféremment, quelle que puisse être sa beauté ou sa monstruosité. Nous cultivons de toutes nos forces ce sentiment. Et chez nous, l'amour du prochain l'emporte sur les séductions de la beauté. Il détruit ainsi tout prétexte aux querelles et aux discordes qui ont leur source dans les relations des sexes. Un chrétien ne se marie que lorsqu'il sait que son union avec une femme ne fait de mal à personne. « Mais est-ce possible ? » s'écria Jules. « Un homme est-il maître de ses inclinations ?»« Non, s'il leur a donné libre cours. » »« Mais nous pouvons éviter de les éveiller ou en arrêter le développement. » »« Par exemple, les relations entre père et fille mère et fils, sœur et frère. Une mère, une fille, une sœur, si belles qu'elles puissent être, ne sont jamais un objet de jouissance personnelle pour le fils, pour le père, le frère, mais un objet d'affection. Et la passion ne s'éveille pas. Cela pourrait arriver cependant si l'homme découvrait que celle qui croyait sa fille n'est pas sa fille, ou pour un jeune homme que celle qui croyait sa mère n'est pas sa mère, ou que celle qui croyait sa sœur n'est pas sa sœur. Mais même ces sentiments seraient faibles et l'homme pourrait facilement les maîtriser. Le sentiment de la volupté serait faible parce qu'il aurait à sa base un sentiment d'affection pour sa mère, pour sa fille, sa sœur. Pourquoi donc douter qu'il soit possible et même facile à l'homme d'éprouver pour les femmes en général des sentiments analogues à ceux qu'ils éprouvent pour leur mère, leur sœur, leur fille, et de faire en sorte que le sentiment de l'amour conjugal se développe sur ce sentiment. Un jeune homme ne se permettra pas d'éprouver de passion pour la jeune fille qu'il regarde comme sa sœur, jusqu'à ce qu'il soit convaincu qu'elle n'est pas sa sœur. De même, un chrétien se garde d'entretenir un sentiment semblable pour une femme, jusqu'à ce qu'il soit persuadé que son amour pour elle n'occasionnera de souffrance à personne. Mais si deux hommes aiment la même femme, alors l'un d'eux sacrifie son sentiment pour le bonheur de l'autre. Et si la femme aime l'un des deux, alors celui qu'elle aime le moins sacrifiera son amour pour le bonheur de la jeune fille. Mais si elle les aime tous les deux et que tous les deux désirent faire le sacrifice de leur affection, elle n'épousera ni l'un ni l'autre. Un tel cas serait examiné consciencieusement par les anciens, qui indiqueraient aux intéressés ce qu'il leur paraîtrait le plus propre à donner à chacun le plus de bonheur possible. Mais on ne procède pas ordinairement ainsi. C'est contraire à la nature humaine. Contraire à la nature humaine. Quelle nature humaine? L'homme, tout en étant un animal, est pourtant un homme. Et si les relations avec la femme approuvées par la religion chrétienne ne s'harmonisent pas avec la nature animale de l'homme, elles s'accordent parfaitement avec sa nature raisonnable. Lorsque l'homme met sa raison au service de ses passions animales, il tombe plus bas que la brute. Il se livre à la violence, à l'inceste, ce à quoi nul animal ne tombe. Mais lorsqu'il emploie sa raison à réfréner ses instincts bestiaux, une fois que ceux-ci sont soumis à la première, il atteint alors le bonheur qui le satisfait. Chapitre 5.
Mais parle-moi un peu de toi, dit Jules. Je vois que tu accompagnes cette belle jeune fille, et si j'en juge par les apparences, tu vis près d'elle et travailles avec elle. Ne désires-tu pas devenir son époux ?
Je n'y ai pas pensé, répondit Pamphile. Elle est la fille d'une veuve chrétienne. Je les assiste comme le font les autres. Tu me demandes si je l'aime au point de vouloir m'unir avec elle. Cette question m'est quelque peu pénible, mais je te répondrai loyalement. J'ai eu cette pensée, mais il y a un jeune homme qui l'aime aussi. C'est ce qui fait que je n'ose penser à cela. Lui aussi est chrétien. Il nous aime beaucoup tous les deux. Et je ne puis pas faire une chose qui lui soit pénible. Je vis sans penser à cela. Tous mes désirs n'ont qu'un but, remplir la loi de l'amour envers les hommes. C'est la seule chose nécessaire et je me marierai lorsque je serai convaincu qu'il le faut. Mais la mère ne saurait rester indifférente entre un gendre qui soit bon et travailleur ou un gendre qui soit précisément le contraire. Elle doit le préférer à tout autre. Non, cela lui est absolument égal, car elle sait que tous nos frères sont aussi bien que moi prêts à l'aider et lui être utile, comme nous le sommes pour tous nos frères et sœurs, et que, son gendre ou non, je continuerai à faire pour elle tout ce que je pourrai. S'il arrive que je me marie avec sa fille, j'en serai heureux, de même que je me réjouirai de son mariage avec un autre. Attends, ce que tu dis là est impossible, s'écria Jules. Voilà ce qu'il y a de terrible chez vous, chrétiens, c'est que vous vous trompez vous-même, et par suite, trompez les autres. L'étranger m'a dit de vous des choses justes. Quand je t'écoute, je me laisse prendre au charme de la vie que tu dépeins. Mais quand je réfléchis, je vois qu'elle n'est qu'une tromperie. Une tromperie qui amène à une sauvagerie, à une brutalité, qui rapproche la vie de celle des bêtes. Et en quoi vois-tu cette sauvagerie ? Dans ce fait que, travaillant pour gagner votre vie, vous n'avez ni le temps, ni le moyen de vous adonner aux sciences et aux arts. Par exemple, toi, tu es déguenillé, tes pieds et tes mains sont couverts de durillons, et ta compagne, qui pourrait être une déesse de beauté, ressemble à une esclave. Vous n'avez ni hymne à Apollon, ni temple, ni poésie, ni jeu. En un mot, rien de tout ce don qu'ont fait les dieux à l'homme pour orner sa vie. Travailler comme des esclaves ou des bœufs uniquement pour se nourrir. N'est-ce pas la renonciation volontaire et impie de tous les désirs et de toutes les aspirations de la nature humaine ? Encore cette nature humaine, s'écria Pamphile. En quoi consiste cette nature ? Consiste-t-elle à torturer des esclaves en les faisant travailler au-dessus de leurs forces ? À tuer ses frères ou à les dégrader par l'esclavage ? Consiste-t-elle à transformer la femme en objet de désir ? Tout cela est nécessaire pour cette beauté de la vie que tu crois propre à la nature humaine. La nature humaine consiste-t-elle en cela ou à vivre en union avec tous les hommes et à se sentir un des membres de la fraternité universelle ? De même, tu te trompes grandement si tu penses que nous ne reconnaissons pas les sciences et les arts. Nous savons apprécier toutes les capacités dont l'homme est doué. Nous regardons les capacités innées de l'homme comme un moyen qui lui a été donné d'atteindre le but que nous nous efforçons d'atteindre par toute notre vie, c'est-à-dire l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous n'estimons point les sciences et les arts comme un passe-temps bon à procurer des plaisirs aux gens oisifs. Nous exigeons de la science et de l'art la même chose que toutes les occupations humaines, qu'en eux se manifeste le même amour de Dieu et du prochain dont sont pénétrés les actes d'un chrétien. Nous ne reconnaissons comme science que ce qui aide les hommes à vivre mieux. De même que nous n'apprécions comme art que ce qui purifie la pensée, élève l'âme et augmente les forces nécessaires à une vie de travail et d'amour. Nous ne laissons échapper aucune occasion de le développer en nous et en nos enfants. Et volontiers, nous y adonnons dans nos moments de loisir. Nous lisons et étudions les écrits des sages qui ont vécu avant nous. Nous chantons des poésies, nous peignons des tableaux, et nos chants et nos tableaux encouragent notre esprit et nous consolent dans les moments de tristesse. Mais nous ne saurions approuver les applications que vous autres païens faites des sciences et des arts. Vos savants emploient leurs capacités et leurs savoirs à découvrir de nouveaux moyens de nuire aux autres. Ils perfectionnent les engins de guerre, c'est-à-dire de meurtre. Ils inventent de nouveaux moyens de gagner de l'argent, c'est-à-dire de s'enrichir aux dépens des autres. Votre art est utilisé dans la construction et la décoration des temples en l'honneur des dieux auxquels les plus instruits d'entre vous ont cessé de croire depuis très longtemps. Cependant, vous tâchez de maintenir les autres dans la croyance en ces dieux, en espérant que, grâce à cette tromperie, les tenir plus aisément sous le joug. Vous élevez des statues en l'honneur des plus terribles et des plus cruels des tyrans, que personne ne respecte, mais que tous craignent. Dans vos pièces de théâtre, l'amour criminel est loué et applaudi. La musique sert à l'amusement de vos richards qui se gavent et s'enivrent dans leurs riches banquets.
La peinture est employée à représenter dans des maisons de débauche des scènes qu'un homme, à moins d'être ivre ou étourdi par la passion bestiale, ne peut regarder sans rougir. Non, l'homme n'a reçu pour de tels buts les grands avantages qui le distinguent de l'animal. On ne peut en faire un amusement pour le corps. Consacrant notre vie à l'accomplissement de la volonté de Dieu, nous devons d'autant plus employer au même but nos capacités supérieures. Oui, tout cela serait très bien si la vie était possible dans de telles conditions, objecta Jules. Mais on ne peut pas vivre ainsi. Vous vous leurrez vous-même, vous refusez à reconnaître notre protection. Mais sans les légions romaines, pourriez-vous vivre en paix? Vous jouissez de la protection que vous refusez de reconnaître. Même certains d'entre vous, tu me l'as dit toi-même, se défendent. Vous ne reconnaissez pas la propriété et vous en jouissez. Nos frères l'ont et vous la donnent. Toi-même, tu ne veux pas donner gratuitement les raisins que tu apportes, tu les vends. Et ensuite, à ton tour, tu feras des achats. Tout cela est une tromperie. Si vous faisiez comme vous dites, je pourrais comprendre votre position. Mais de la façon dont vous agissez, vous vous trompez, et de ce fait, vous trompez les autres. Jules s'animait et disait tout ce qu'il avait sur le cœur. Pamphile l'écoutait sans mot dire. Lorsque Jules cessa de parler, il reprit. « Tu te trompes en disant que nous profitons, sans la vouloir reconnaître de la protection que vous nous accordez. Notre bonheur est précisément en cela que nous n'avons pas besoin de protection. Aussi, nul ne peut-il nous l'enlever. Si les objets matériels que vous regardez comme la propriété personnelle passent dans nos mains, nous ne les regardons pas comme nous appartenant. Nous les remettons à ceux qui en ont besoin. Il est vrai que nous vendons des raisins à ceux qui désirent en acheter, mais ce n'est pas pour le gain. C'est uniquement afin d'obtenir ce qui est nécessaire à la vie de ceux qui en ont besoin. Si quelqu'un voulait nous prendre ces raisins, nous les abandonnerions sans la moindre résistance. Par cette même raison, nous n'avons rien à craindre des barbares. S'ils désiraient nous priver des produits de notre travail, nous les leur abandonnerions de suite. S'ils l'exigeaient, nous travaillerions pour eux, et même avec joie, de sorte que non seulement les barbares n'auraient aucune raison pour nous tuer, mais l'acte serait contraire à ce qu'ils appellent leur intérêt. Ils arriveraient bientôt à comprendre, à nous aimer même, et nous aurions moins à souffrir d'eux que nous ne souffrons de la part des peuples civilisés parmi lesquels nous vivons et qui nous persécutent. Tes accusations contre nous, c'est que nous n'atteignons pas tout à fait notre but, que nous ne reconnaissons pas la violence ni la propriété, en même temps que nous en jouissons. Si nous sommes des trompeurs, ce n'est pas la peine de perdre son temps à parler de nous. Nous ne méritons ni colère ni injure, mais seulement le mépris. Et ce mépris, nous l'acceptons volontiers. Car c'est une de nos règles de ne jamais nier notre infériorité. Mais si nous essayons sincèrement d'atteindre le but que nous proposons à nos efforts, alors tes accusations deviennent injustes. Si nous essayons, comme nous le faisons, mes frères et moi, de vivre selon la loi de notre maître, il ne saurait être question pour nous de rechercher les avantages matériels, les richesses, les honneurs, que nous ne reconnaissons pas. Mais quelque chose de bien différent. Nous cherchons, comme vous, le bonheur. Et la seule différence entre nous, c'est que nous le comprenons autrement. Vous le placez dans les richesses, les honneurs. Nous autres, notre foi nous dit que le bonheur ne se trouve pas dans la violence, mais dans la soumission. Non, dans les richesses, mais dans leur renoncement. De même que les plantes s'élèvent toujours vers la lumière, de même, nous ne pouvons pas aspirer à aller là où nous voyons notre bonheur. Nous ne faisons pas tout ce que nous voudrions pour atteindre le bonheur, c'est vrai, mais il n'en saurait être autrement. Tu fais ton possible pour obtenir la plus jolie femme, la plus grande fortune. Mais y parviens-tu?
si un tireur ne touche pas la cible, cessera-t-il de la viser parce qu'il l'aura manqué plusieurs fois de suite? La même chose avec nous. Notre bonheur, suivant l'enseignement du Christ, repose dans l'amour. Nous tous cherchons le bonheur, mais chacun l'atteint imparfaitement et à sa manière. Oui, mais et pourquoi vous refusez à écouter la voix de la sagesse humaine? Pourquoi vous en détournez-vous pour écouter seulement celle de votre maître, crucifié? Votre esclavage, votre soumission absolue, voilà ce qui me repousse. De nouveau, tu te trompes. Comme tous ceux qui s'imaginent que nous observons notre doctrine uniquement parce que l'homme en qui nous avons confiance nous a ordonné de le faire. Au contraire, ceux qui cherchent de toute leur âme à savoir la vérité, à communier avec le Père, à posséder le vrai bonheur, se trouvent involontairement dans la voie que Christ suivait. Alors, se mettant instinctivement derrière lui, le voyant devant eux, ils le suivent. Tous ceux qui aiment Dieu se rencontreront sur ce chemin. Toi aussi. Lui, le Fils de Dieu, est le médiateur entre Dieu et les hommes. Nous ne croyons pas cela aveuglément, parce qu'on nous l'a dit. Mais nous le croyons sincèrement, parce que tous ceux qui cherchent Dieu trouvent son Fils devant eux. Et c'est seulement par l'entremise du Fils qu'ils voient, connaissent et comprennent Dieu. Jules ne répondit pas et longtemps garda le silence. « Es-tu heureux ? » demanda-t-il. « Je ne désire rien de mieux, mais ce n'est pas tout. Je ressens souvent un sentiment de doute et la conscience d'une injustice, précisément parce que je suis trop heureux, » dit Pamphile. « Oui, » dit Jules, « peut-être que moi aussi j'eusse été heureux si je n'avais pas rencontré cet inconnu et si j'étais allé chez vous. » Si tu penses ainsi, qu'est-ce qui te retient ? Ma femme. Tu dis qu'elle a un penchant pour le christianisme, elle viendra avec toi. C'est vrai, mais nous avons déjà commencé une autre vie. Comment la rompre ? La vie est commencée et nous ferons mieux de la poursuivre jusqu'au bout, dit Jules. Pensant d'abord au désappointement de son père, de sa mère, de ses amis, et principalement aux efforts que lui coûterait un pareil changement. À ce moment, la jeune fille, la compagne de Pamphile, parut à la porte de la boutique en compagnie d'un jeune homme. Pamphile alla leur parler, et le jeune homme lui dit, en présence de Jules, que Cyrille l'avait envoyé acheter du cuir. Les raisins étaient déjà vendus et le blé acheté. Pamphile proposa donc au jeune homme de retourner au village avec Magdeleine et d'emporter le blé, tandis que lui se chargeait de l'achat du cuir. « Ce sera mieux pour toi, » dit-il. « Non, il sera préférable que Magdeleine t'accompagne, » répondit le jeune homme en s'en allant. Jules accompagna son ami chez un marchand de blé de sa connaissance. Là, Pamphile remplit les sacs de blé, remit un petit paquet à Magdeleine, chargea son lourd fardeau sur ses épaules, dit adieu à Jules et s'éloigna avec la jeune fille. Au coin de la rue, Pamphile se retourna, salua amicalement son ami, puis avec un sourire joyeux dit quelques mots à Magdeleine et ils s'éloignèrent ensemble. « Oui, j'aurais mieux fait d'aller avec eux, » se dit Jules. Et deux tableaux se dessinaient dans son imagination. Tantôt il voyait le robuste Pamphile avec cette jeune fille belle et forte, chacun portant un panier sur sa tête et leur visage bon, radieux. Tantôt, il voyait le foyer qu'il avait quitté le matin où il allait retrouver le soir sa femme, jolie, mais dont les charmes commençaient déjà à le laisser froid, et qui était là, richement habillée et parée de bijoux, paresseusement couchée sur de riches tapis et coussins. Mais Jules fut bientôt tiré de ses réflexions. Des camarades et des marchands avec qui il était en affaires s'approchèrent et l'emmenèrent dîner. Et après avoir beaucoup bu, ils allèrent passer la nuit auprès de leur femme,